Bonsoir, frères et sœurs ou amis, qui êtes venus partager la parole de Dieu. Ce soir, on va parler de deux sujets bibliques qui paraissent être contradictoires. Et pourtant, ils sont complémentaires. Nous allons faire deux lectures. La première, dans Ésaïe, au chapitre 30, il y a un désir de Dieu qui est exprimé au travers du prophète Ésaïe. Ésaïe exprime quelle est la volonté de Dieu. Les choses n'allaient pas trop bien, c'était le peuple de Dieu, et il ne cherchait pas le secours en Dieu. Il cherchait le secours eh bien, dans l'Égypte, c'est-à-dire dans les choses humaines. Et Dieu, malgré les reproches qu'il doit leur faire, est-ce que ça vous arrive de devoir faire des reproches à certaines personnes? Est-ce que ça a déjà arrivé de faire un reproche à quelqu'un? À qui avez-vous fait déjà des reproches? Bon, pas au mari, je sais très bien. L'infaillibilité fait que. Mais est-ce que c'est déjà arrivé qu'un homme puisse faire des reproches à sa femme? Oui. Bon. Ça peut arriver? Ça peut arriver. Bon. Et il arrive parfois que Dieu ait des choses à dire. Ça fait que les gens, lorsqu'ils entendent un reproche, ils ne le comprennent pas bien. Un reproche, on peut le considérer comme quoi? Comme un conseil. Mais certains vont le considérer comme un jugement. Et c'est vrai, et c'est vrai. Et là, dans un contexte où Dieu est quand même obligé de leur dire certaines choses, il ajoute quelque chose qui nous intéresse. Ésaïe 30, verset 18. « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux, tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. » Il te fera grâce quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Et tout le monde dit Amen. Car c'est une bénédiction de voir que Dieu veut faire grâce. Il désire faire grâce, il attend bien sûr notre participation. On voit que la volonté de Dieu, c'est de faire grâce. Si on reste dans Ésaïe, on le voit par exemple au chapitre 61. Le Seigneur Jésus est venu dans ce seul but, apporter la grâce aux hommes. On le voit, c'est le ministère de Jésus qui est défini au travers de ces premiers versets. Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. » Et regardez bien le verset 2. Qui est composé de ces deux choses que je voudrais aborder avec vous ce soir, pour publier une année de grâce de l'Éternel, virgule, et un jour de vengeance de notre Dieu. Nous voyons que Dieu proclame sa grâce. Dieu désire faire grâce. On vient de le chanter, ce merveilleux cantique, de la croix, la grâce coule. Quelqu'un un jour m'a dit, mais ce n'est pas de la croix, mais bien sûr, c'est de Jésus que la grâce coule. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que c'est deux, parce que la croix représente toute l'œuvre de Jésus-Christ au calvaire. Nous allons lire un texte maintenant dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, j'ai pris ce texte volontairement, parce que vous savez que cette nuit, la nuit dernière, il y a eu une éclipse, vous le savez? Une éclipse, ce matin, sur les journaux, il y avait écrit que la lune était rouge sang. Vous l'avez lu? Vous n'avez pas lu les journaux? Enfin, il y avait écrit exactement ceci, la lune rouge sang, dans l'éclipse la plus longue. Voilà. Alors, on va lire Apocalypse 6, verset 12. Vous savez qu'il est parlé à plusieurs reprises de la lune qui devient comme du sang. Et Apocalypse 6, verset 12, nous venons donc de lire deux textes qui parlent de la grâce. Que Dieu veut faire grâce, quel que soit même notre péché, notre misère, c'est sa volonté, il veut faire grâce. Mais il n'empêche que la dispensation de la grâce s'achèvera. Il faut l'enseigner. Alors ça n'a rien à voir avec les prophéties de 2012 où la fin du monde serait programmée pour 2012. Alors ceux qui connaissent la Bible, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que la planète Terre soit détruite le 21 décembre 2012? Qu'est-ce qu'il doit y avoir avant la fin du monde? Est-ce qu'il ne doit pas y avoir le millénium? Est-ce qu'il doit y avoir 1000 ans de paix et de justice sur la Terre? Oui, donc vous voyez, s'il y a la fin du monde, c'est pas pour demain la veille. Ils se sont trompés d'un millénaire à peu près. Bon, l'erreur est humaine. Apocalypse chapitre 6, verset 12. « Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers. » Vous voyez, ça tient du ridicule, vraiment. On ne veut pas invoquer Dieu, mais là on se met à prier les montagnes. Enfin bon. « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Voilà ce que les hommes disent devant ce qui va arriver. « Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» C'est une question. Elle est là, une de plus, que Dieu pose au travers des apôtres. Une question à laquelle il faut répondre. Car l'honnêteté veut que quand on nous pose une question, eh bien déjà on y réfléchisse, le grand jour de la colère. Alors vous pourriez dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Dans Ésaïe, vous venez de lire que Dieu n'a qu'un désir, celui de faire grâce. Et que Dieu désire faire grâce, même si l'homme est dans le péché, même si l'homme il se trompe, même si l'homme il est à côté, Dieu désire lui faire grâce. Il n'a qu'une chose à faire, crier, demander pardon, demander la miséricorde. Ce week-end, j'ai vu une dame qui portait un péché depuis 20 ans. Et je lui ai dit, mais vous ne savez pas que Dieu pardonne? Mais c'est vrai, elle me dit. Et je lui ai dit, vous, est-ce que vous êtes pardonné? Non. Et tout d'un coup, elle s'est mise à pleurer, elle m'a dit. Elle m'a dit 10 minutes après, c'est le plus beau jour de ma vie. Elle ne rigolait pas. Moi, je crois que quand on reçoit la grâce de Dieu, la grâce coule. Et on a besoin de pardon. On n'a pas besoin de pardon? Non? Est-ce que vous avez besoin de pardon? Eh oui, on en a besoin. On fait tous des bêtises. Alors, une année de grâce et un jour de colère. C'est vrai que l'apôtre Paul explique dans toutes les lettres que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. La volonté de Dieu, c'est que l'homme connaisse la grâce, l'honneur, la gloire, le bonheur éternel. Mais l'homme, volontairement, choisit toujours de faire ce qu'il ne faut pas. Ça n'a pas beaucoup changé depuis le début. Dieu a mis l'homme sur la terre. Quand Dieu a mis l'homme sur la terre, on va le lire. On va le lire. Dans Genèse au chapitre 2, il nous est présenté en quelques versets, on ne va pas tout lire. Dans Genèse chapitre 2, verset 16. « L'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Mais ce n'était pas ce verset. C'est le verset où il est dit que Dieu, voilà, du verset 27 du chapitre 1er. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit. On voit bien, je résume bien sûr, mais lorsque Dieu a créé l'homme, c'était dans une seule et même intention, de le bénir. La volonté de Dieu, c'est de bénir, c'est-à-dire de nous faire du bien. Pour cela, Dieu nous a créés libres. Pour être libre, il faut avoir la possibilité de choisir. Il ne peut pas y avoir de liberté si on ne peut pas choisir entre le bien et le mal. Et dans la première dispensation, Dieu a créé l'homme béni, il l'a mis dans un environnement formidable, mais il a dit, voilà, tu peux goûter à tout, tu peux jouir de tout, mais il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, tu n'y touches pas. C'est la seule condition. Et c'est vrai que pour être libre, il faut être responsable. Vous n'êtes pas libre si vous ne pouvez pas choisir. C'est comme ça. Donc Dieu, chaque fois, a mis un test. Là, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu lui a dit, écoute, si tu manges de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. C'est vrai que Satan y a mis son grain de sel, mais en fait, c'est quand même l'homme qui a choisi de désobéir. Et le résultat, c'est que l'homme s'est lui-même maudit. C'est l'homme qui s'est fait du mal en désobéissant à la parole de Dieu. Le résultat, c'est que nous le voyons tout le long de l'histoire, nous le voyons aujourd'hui. Est-ce que franchement, les gens ne choisissent pas le mal? Vous voyez autour de vous ce qui se passe? Vous ne trouvez pas que d'emblée, les gens ont tendance à choisir plus le mal que le bien? C'est le cœur de l'homme qui est comme ça. C'est vrai que le cœur de l'homme, il est tortueux, le cœur de l'homme, il est tordu à cause du péché. Mais que la grâce de Dieu est une réalité pour nous amener à faire un bon choix. Je parlais cet après-midi même de quand l'homme a péché, Dieu de suite est intervenu pour couvrir le péché de l'homme. Il a dû sacrifier un animal pour le couvrir, car il était nu. Il n'en avait pas honte, parce que c'était la dispensation de l'innocence. Il n'avait pas la connaissance du bien et du mal. Le fait d'avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils sont sortis de l'innocence, et il fallait qu'ils soient couverts. Dieu a dû sacrifier un animal pour les couvrir. Une fois de plus, Dieu nous montre que chaque fois, il intervient pour réparer nos fautes, pour réparer nos péchés. Adam et Ève, bien sûr, ont bénéficié de ce pardon, leurs enfants aussi, et comme cela doit être le cas, ils avaient cet esprit de communion avec Dieu, et Abel et Caïn, à leur tour, ont dû faire une offrande à Dieu. Vous connaissez l'affaire, c'est un petit peu plus loin, c'est au chapitre 4, et au verset 2, nous voyons les deux frères qui se trouvent confrontés à ce qu'ils doivent faire une offrande à Dieu. Comment vont-ils la faire? Et comment les choses vont se passer? On le lit pour que vous compreniez bien que Dieu désire faire grâce, mais que nous pouvons choisir la colère à la place de la grâce. Regardez, Genèse chapitre 4, verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel, Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers nœuds de son troupeau et de leur graisse. Vous arrêtez la lecture, vous me regardez. Pour pas que vous sachiez à la suite ce qu'il ne savait pas. Bon, Caïn, il cultive la terre, c'est un cultivateur, donc il travaille les potirons, les courgettes, les concombres, etc. Et Abel, lui, il est berger, et donc quand vient le moment d'offrir quelque chose à Dieu, ben lui, il offre un agneau qu'il sacrifie. Bon, c'est quand même plus facile de sacrifier un agneau que de cultiver tous les légumes qui existent. Et Dieu porte un regard favorable sur l'offrande sanglante et il porte un regard défavorable sur ces offrandes de légumes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez intérêt d'ailleurs. Il vaut mieux être d'accord avec Dieu. Mais on voit que Dieu approuve le sacrifice parce que le sacrifice sanglant nous parle de l'agneau de Dieu, fait préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ sur le bois de la croix, tout ça, ça a une ligne de conduite, et Caïn représente le salut par les œuvres. Et Dieu va lui faire le reproche. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Dieu doit nous faire certains reproches. De la même manière qu'il est capable de nous encourager, il est capable de nous motiver, comme un papa sait le faire envers ses enfants. Regardez avec moi la suite. Hein. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Il n'a pas compris. Bon, jusque-là, est-ce que c'est normal de ne pas comprendre? Lorsque nous n'étions pas nés de nouveau, peut-être que nous adorions des idoles, peut-être que nous prions des saints, j'en sais rien. Oui ou non? Puis dès qu'on a lu qu'il ne fallait pas adorer des idoles, de suite on a dit, ah, c'est pas bien, on se corrige. Est-ce que c'est écrit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance? Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais dès que quelqu'un est confronté à la vérité, oh, ça je ne le savais pas. Oh, on m'avait enseigné à prier les morts. Oh, puis je me rends compte que c'est une abomination devant Dieu. Plein de choses ainsi. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui se corrigent. Il y a des gens qui réagissent mal, comme Caïn. En plus, au verset 6, Dieu va prendre le temps de lui parler. Au verset 6, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? » Est-ce que c'était bien que Dieu lui fasse un reproche? Ben oui, mais c'est ça la prédication. Dieu nous parle, il nous met sur les rails, il nous reproche certaines choses, si on est en train de s'irriter, si on est en train de tomber dans la jalousie. Caïn a été jaloux, il aurait dû dire, mais merci de m'éclairer, moi je l'ai fait de tout mon cœur. Eh bien, mais Dieu lui aurait certainement très très bien expliqué. Verset 7, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché
se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui.